Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible ?» L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » Voilà, c'est un texte qu'on prend souvent lors des baptêmes. Et c'est un texte préféré des églises baptistes, je pense, parce que on a un bel exemple d'un baptême. Mais pour Luc, l'aspect principal du récit n'est pas tant le baptême que la personne qui va rencontrer le Seigneur. Et ici, Luc, il choisit de rapporter cette histoire. Parce qu'il nous présente un homme avec un profil très intéressant. Il décrit cet homme en verset 27 et il nous donne quatre éléments, quatre traits de cette personne. Il est éthiopien. À l'époque, l'Éthiopie, c'était un royaume considérable. Il est éthiopien, mais certainement la peau noire. Éthiopien. Il est eunuque. On en parlera. Il est ministre de finances. Il est ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors. Et puis, quatrième trait, c'est qu'il vient adorer à Jérusalem. Voilà un peu son identité. Éthiopien, eunuque, ministre des finances et quelqu'un qui va venir à Jérusalem pour adorer. Et ça, c'est intéressant. Je me souviens quand mon épouse faisait ses études à l'université, elle avait un cours qui s'intitulait « Construction identitaire ». Grand sujet en France, grand sujet en sociologie, construction identitaire. On se construit une identité. Et quand on regarde bien les traits de cet homme, nous voyons justement les manières typiques que les gens se construisent une identité, d'abord l'ethnie. Ensuite, on va dire la position sociale, la position socio-professionnelle. Ensuite, un peu la religion, ce qu'on dit aujourd'hui, sa spiritualité, sa démarche spirituelle. Et puis quatrièmement, on va dire sa sexualité ou sa famille. Ce qui pour lui, en tant qu'eunuque, va être assez distinct. Donc l'ethnie, la position sociale, la religion ou la sexualité, voilà, c'est des choses très importantes pour l'identité et c'est à travers ces choses qu'on se projette une image dans la vie et qu'on établit ses valeurs, qu'on établit ses amis, qu'on établit son entourage. Mais quand on fonctionne comme ça, inévitablement cela, on va dire, creuse des fossés les uns avec les autres, ça fractionne un peu la société parce qu'on se définit ainsi. Juste l'autre soir, on était à une cérémonie de vœux du maire de Toulouse et il terminait son discours en disant un des grands défis dans la ville de Toulouse, en métropole, c'est le défi de vivre ensemble. Tout le monde ensemble, de vivre ensemble. Et je pense que le but de ce texte, c'est justement relever ce défi de mettre les gens ensemble, de vivre ensemble, parce que Luc, ce qu'il fait dans ce livre des Actes, il montre le progrès de l'évangile, le progrès du christianisme. Et pour que cet évangile progresse, il y a des étapes charnières, des frontières à dépasser, parce que l'évangile va réussir, c'est ce qui passionne Luc, va réussir à inclure de nouveaux groupes, l'évangile va réussir à aller plus loin que Jérusalem, et l'évangile va aller en dehors de la communauté juive assez fermée. On a déjà vu la semaine dernière un peu comment l'évangile est arrivé en Samarie. Maintenant, les Samaritains font partie. Maintenant, les Samaritains sont inclus dans le peuple de Dieu, dans le culte. Et ça, c'est déjà, c'était un très grand pas. Et bientôt, on verra en chapitre 10 encore un très grand pas à franchir pour l'évangile. Ce serait d'aller carrément chez les païens, chez les Romains. Il y a ce Corneille qui va recevoir l'évangile. Et Luc ici, donc, il veut montrer encore une étape importante, comment cet homme, avec son identité particulière par rapport à la communauté juive, va lui aussi être inclus, touché. Alors, nous allons voir ça dans cette histoire. Nous allons voir tout d'abord une quête, ensuite une crise et enfin une croix. Une quête, une crise et une croix pour comprendre le parcours de cet homme. Une quête. Pensez un peu à cet homme. Voilà un homme qui est monté très haut dans la vie. Imaginons son équivalent de nos jours. Il est ministre des Finances, il a son bureau à Bercy, il voyage en jet privé, c'est un VIP. Dans son pays, c'est sûr, il fait partie des privilégiés, il fait partie de cette sphère, la noblesse, de sphère des privilégiés, de cette sphère qui est au courant de ce qui se passe, qui est au courant des intrigues. Il côtoie la reine, ça c'est encore c'est un grand privilège, ceux qui peuvent côtoyer et faire cour des grands. Par contre, pour atteindre ce niveau, il a fallu quand même de grands sacrifices de sa part. Pour arriver dans le cercle intime de la royauté, des grands, de sa société, de son temps en tout cas, pour côtoyer la famille royale de si près, qu'est-ce qu'il fallait? Eh bien, on embauchait des eunuques, justement, pour une sécurité, c'est comme ça que ça se faisait dans les civilisations anciennes, pour ce genre de travail, pour ne pas soupçonner des problèmes, donc il y avait des eunuques. Et j'ai lu quelque part que c'était quelque chose que les gens, ça pouvait leur être imposé, mais c'est aussi quelque chose que les gens pouvaient choisir, s'imposer pour justement accéder à telle position. Et certainement, Jésus fait allusion un peu à ça, il dit il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, c'est une déformation génétique, il y a des eunuques qui le deviennent par les hommes, c'était obligé, et puis il y a ceux qui le choisissent. Si on trouve ça radical comme démarche pour monter dans le monde, regardez dans notre société ce que les gens sont prêts à sacrifier pour être inclus parmi les grands, pour réussir, pour monter plus haut. On vous demande peut-être, vous, parfois, de sacrifier famille ou enfant ou une vie familiale sur l'autel de la réussite pour être admis. Et ça, c'est un phénomène très fort dans notre société. Il y a ce profond désir d'être accepté, d'entendre quelqu'un dire « Bienvenue, bienvenue au club, bienvenue parmi nous, nous sommes les gens qui savons. Et tu fais partie des initiés. » Et je pense que nous sommes tous en quête de cela. Le monde fonctionne à tous les niveaux de la société comme ça, que ce soit entre copines, copains dans la cour de récré, que ce soit à la cour des grands, l'aristocratie, que ce soit dans votre lieu de travail, probablement, on sait qui est qui. On sait si tu es dedans ou si tu es dehors. On sait si tu fais partie des gens de bien ou pas. Bien sûr, il n'y a pas des règles, c'est pas affiché, hein, un règlement intérieur à l'accueil, mais on le sait. Je me souviens au lycée, pour le repas de midi, on mangeait pas en cantine, chacun amenait son repas tiré du sac, et puis on s'asseyait sur la pelouse, tout ça. Il y avait un coin de la pelouse, il y avait un cercle où les gens s'asseyaient pour manger le repas. Mais tout le monde savait que ce cercle-là, eh bien, c'était des gens de bien. Et soit tu étais admis, soit tu n'étais pas admis. Et c'était pas en fonction de tes notes, c'était pas en fonction de. Mais on savait si tu faisais partie de ces gens-là, des gens qui sont cool, qui sont bien. Et ça commence très tôt dans la vie, on en parlait un peu ce matin, mais quelle est la punition suprême que les enfants se prononcent entre eux ? Je ne suis plus ton copain. Et les enfants, ils vont se mettre en groupe, ils vont choisir un à exclure. Voilà, on n'est plus ton copain. Et ça, c'est un châtiment extrême. Mais quelque part, nous vivons tous avec cette crainte, cette hantise, que le monde nous dise un jour, eh ben, t'es pas vraiment dans le truc. Il y a C.S. Lewis, il décrit ce phénomène dans un discours qui est devenu assez connu. Il appelle ça le cercle intérieur. Et il dit que c'est un des éléments dominants de la nature humaine, c'est le désir d'être admis dans le cercle intérieur, la sphère privée, avec cette hantise de se retrouver à l'extérieur, d'être exclu. Et pour cela, on est prêt à toutes sortes de sacrifices, à se ranger à tout autre, à toute opinion, pour avoir accès, à tout entreprendre. Voilà. Et ça, un peu notre quête. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme, qui pourtant est très, très élevé, qui a atteint, on pourrait dire, ce cercle intérieur, eh bien, visiblement, il n'est pas satisfait, il est toujours en quête. Malgré sa place auprès de la reine, malgré son appartenance à la noblesse, malgré toutes les finances qu'il touche, et toute la connaissance, tous les secrets politiques, financiers auxquels il a accès, il est toujours en quête. Comment peut-on le savoir ? Parce qu'il vient à Jérusalem pour adorer. Venir de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, il s'agit quand même d'un... C'est pas tout le monde qui le fait, il s'agit d'un gros effort. Personne n'entreprendrait un tel voyage s'il était bien dans sa peau, content de ce que l'Éthiopie pouvait offrir. Autre détail intéressant, le fait de posséder un rouleau d'Ésaïe montre qu'il est prêt quand même, qu'il est prêt à dépenser de grands moyens, qu'il était en recherche. Parce qu'à l'époque, un rouleau d'Ésaïe, c'était pas 1,50€ sur la table de littérature au fond de la salle. C'était, il fallait se donner de moyens pour l'avoir. Et donc, il l'a, et c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à Jérusalem pour adorer. Peut-être a-t-il entendu parler du Dieu d'Israël comme un Dieu exceptionnel, un Dieu accueillant. Peut-être une famille, ça lui manque après tout, tant qu'eunuque. Il se dit que peut-être au temple, à Jérusalem, parmi la communauté juive, il va trouver cette acceptation, cette inclusion, cet entourage que tout homme cherche, et qu'il n'a visiblement pas trouvé chez lui. Une quête. Ensuite, une crise. Vous savez quoi ? Cet homme qui vient à Jérusalem, quelque part, nous savons qu'il a été refusé, en quelque sorte. Il a été refusé. Forcément, il a été exclu. Parce que si on regarde l'identité de cet homme, il a tout pour être exclu de la communauté juive. Déjà, les lois de Moïse interdisaient l'accès aux eunuques. Deutéronome, chapitre 23, verset 1. Certainement parlant de cette pratique dans les cultes païennes de se faire eunuque pour plaire à tel ou tel dieu. Et donc cela était interdit, il n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu, dit Deutéronome 23, verset 1. Et les juifs, c'est sûr, ils n'auraient jamais accepté un eunuque éthiopien comme un des leurs. En plus, quand on regarde les évangiles, on sait que le temple de Jérusalem n'était pas spécialement accueillant pour les étrangers, parce qu'il y avait le temple, il y avait même un espace prévu pour les étrangers, gens venant de loin, les non-juifs, c'était le parvis des gentils. C'était cet espace prévu pour qu'ils fassent leur culte, leur adoration, leur prière. Mais c'était justement là, certainement, que les marchands, les vendeurs, les changeurs de monnaie s'étaient installés pour créer tout un brouhaha impossible. Et c'est pourquoi Jésus, en les chassant, il dit, mais c'est ma maison, dit Dieu, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc Jésus veut préserver un peu l'accès pour tous les peuples. Je ne sais pas si tous ces changeurs de monnaie se sont remis de suite avec leurs activités normales après la mort, le départ de Christ. En tout cas, on pourrait dire que Jérusalem n'était pas vraiment terre d'accueil, pays d'accueil pour les étrangers. Il reste un exclu. Je pense que la crise d'identité de nos jours vient de la même chose. Quel que soit le cercle qu'on essaie d'atteindre, quelle que soit l'identité qu'on essaie de se construire, quel que soit le niveau auquel on arrive, on va toujours rencontrer une exclusion de plus, une déception de plus. Parce qu'on découvre que combien même on atteint les grands niveaux, à l'intérieur des grands niveaux, il y a encore un cercle à pénétrer. Combien même qu'on arrive à l'intérieur, qu'on fasse partie des initiés, des privilégiés, des inclus, on va découvrir que, voilà, il y a une partie plus restreint, qui est encore plus digne d'être creusée. Il y a toujours un autre cercle qui peut nous exclure. Dans son article, Louis il décrit comme ça, et il dit, c'est comme si vous essayez de peler un oignon. Si vous arrivez, il n'y a plus d'oignon. Oui, c'est ça. Si tout le monde est au courant, si tout le monde est dans le secret, si tout le monde est égal, le cercle n'a plus d'intérêt. C'est pour ça que quand, par exemple, pour revenir au lycée avec ce cercle, tout le monde veut pouvoir s'asseoir avec ce groupe-là pour manger le repas. Mais une fois qu'on est dedans, on a tout intérêt maintenant à garder les autres en dehors, parce que sinon, ça perd tout son intérêt. Donc nous, on va entrer, et une fois entré, il faut empêcher les autres derrière d'y accéder. C'est comme ça que la société fonctionne. Exclure les autres pour se sentir bien, pour se sentir accepté soi-même. Et là, le défi de vivre ensemble, devient impossible. Donc, on s'appuie sur l'ethnie, on s'appuie sur la position sociale, on s'appuie sur une définition de la sexualité, tout ça pour rejeter l'autre. Pourquoi on fait ça constamment? Mais parce que la Bible explique que le sort humain, c'est qu'un jour, à cause de son péché, il a été exclu de la présence de Dieu. Et c'est ça qui nous travaille, nous tracasse, c'est que c'est ce que nous avons perdu. Donc on cherche à le retrouver, on cherche à créer d'autres cercles, d'autres groupes dans lesquels on peut se sentir bien. Mais pour ça, il faut exclure les autres. C'est un peu les conséquences de notre péché, cette exclusion, cette séparation. Et cet eunuque éthiopien, forcément, il a dû goûter encore une fois, de plus, cette différence, pas un rejet officiel, mais en tout cas le sentiment de n'être pas vraiment l'un d'eux. Donc, il est sur le voyage de retour, il lit, cherche encore à comprendre, il lit à haute voix, certainement, le prophète Ésaïe. Donc on a parlé d'une quête, on a parlé d'une crise, maintenant on peut parler d'une croix. Parce que là, il est dans son char. Il est en train de lire, et on nous précise justement quel passage il lit en Ésaïe, et c'est le passage que nous appelons le chapitre 53. Il n'aurait pas reconnu comme ça parce qu'il n'y avait pas les chiffres comme nous, mais c'est ce que nous connaissons bien en tant que chrétiens, et on connaît bien ce passage dans Ésaïe, chapitre 53. De quoi parle ce passage Ésaïe 53? Ben, ça parle d'un rejeté, ça parle d'un rejeton. Ça parle de quelqu'un qui a été dédaigné par les autres. Ça parle de quelqu'un qui a été méprisé, abandonné par les hommes. Ça parle de quelqu'un qui a été maltraité, qui a été opprimé. Ça parle de quelqu'un qui a été retranché de la terre des vivants, quelqu'un qui était retranché, totalement exclu de la communauté, du monde, de la société. En fait, ça parle de... Nous, on reconnaît que ça parle de la croix. Ésaïe 53 parle de la croix, notamment Jésus, et qui était en croix, en décrivant cette exclusion totale, ce rejet. Alors, on peut comprendre qu'il s'identifie avec cet homme. Il veut savoir de qui il s'agit. Est-ce que c'est le prophète ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Et Philippe, voilà, il a la porte grande ouverte de lui expliquer, de lui raconter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus en commençant par ce passage. Parce que là, c'est ça la bonne nouvelle, l'évangile est vraiment une bonne nouvelle à part. La bonne nouvelle de Jésus, cette histoire raconte comment Jésus, lui qui faisait partie du cercle intérieur, du cercle intime, le plus important qui soit, là-haut, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la bonne nouvelle raconte comment il a quitté tout ça. Il a quitté tout ça pour aller vers les exclus, vers les rejets tels que nous sommes. La bonne nouvelle parle de ce rejeton, cet homme méprisé, abandonné des hommes. Il est devenu l'ultime exclu pour nous inclure dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu. Pour qu'il puisse nous appeler ses copains, ses amis. Mais le problème dans tout ça, c'était quand même nos péchés qui méritaient une exclusion de la présence de Dieu. Cette séparation, eh bien, Jésus est venu et c'est lui qui l'a encaissé. Il a vécu, il a connu, notamment à la croix. Il l'a porté. Toute cette hantise qui nous tracasse, il a pris sur lui. Et le comble, c'est qu'à la croix, il a entendu son propre Père dire « Je ne suis plus ton copain. Je ne suis pas là. » Et d'où son cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu lui a tourné le dos. Dieu lui a exclu de sa présence. Mais il a fait pour nous, pour que nous n'ayons jamais à entendre ça de la part de Dieu. Pour que Dieu ne nous dise à nous jamais, je ne suis plus ton copain, ton ami, va dans les ténèbres du dehors. C'est ça la bonne nouvelle, et c'est cette bonne nouvelle qui va décrire quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été retranché de la terre, eh bien, il a été pour que nous soyons intégrés, inclus. Et il comprend. Il croit, il saisit le message, et il y a ce petit mot en verset 39 qui indique que certainement pour la première fois de sa vie, cet eunuque a connu une véritable satisfaction, paix, joie. Ce que le verset dit, l'eunuque ne le vit plus Philippe, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce joyeux, une nouvelle joie en tout cas, d'avoir trouvé sa place dans le monde, dans la vie. Dieu promet de nous inclure aussi, de nous donner cet accès. Maintenant, quand on connaît Jésus-Christ, il n'y a aucun groupe, il n'y a aucun cercle sur la pelouse, il n'y a aucun promotion au travail qui peut offrir ce niveau d'assurance, ce niveau de paix, de joie, d'amour. Je veux bien croire que l'eunuque, il a continué sa lecture. La route était longue. Il n'avait pas toutes les distractions qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Il avait toujours son rouleau d'Isaïe, j'imagine. Et donc, je veux bien croire qu'il a continué sa lecture et qu'il est tombé la page suivante. Il n'y a pas des pages dans les rouleaux, je sais. Mais la page suivante, il aurait tombé sur ces versets. Je vous les lis, après je vous dis où ça se trouve. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple, Que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, eh bien je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Il lit ça, il dit, ben, c'est moi ça, je suis cet eunuque qui avait peur d'être un arbre sec. Je suis cet étranger qui se sentait séparé, loin. Eh bien, la promesse, grâce à Ésaïe 53, eh bien, Ésaïe 56 s'applique à moi. Pouvait dire cet eunuque, et c'est ce que nous aussi, nous pouvons tous vivre. Il nous accueille dans ses murs, il nous accueille à sa table. Il dit, voilà, comme ce matin, vous êtes mes copains, vous partagez tous ensemble, quelle que soit votre origine, votre arrière-plan, votre identité. C'est plus ces choses-là qui dictent qui vous êtes, c'est ce que Christ a fait pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Accessible pour chacun de nous, et ça change. Le défi de vivre ensemble, eh bien, c'est les chrétiens qui connaissent l'Évangile, qui connaissent la bonne nouvelle de Jésus, qui peuvent l'appliquer. Et c'est ce que Luc montre. Voilà, un de plus qui va maintenant être inclus dans le peuple de Dieu. Cet homme, il avait tout pour être vraiment la dernière personne au monde à qui Philippe serait le copain. Mais maintenant, ils sont ensemble. Et puis, le livre des Actes va poursuivre comme ça. Et l'Évangile va inclure, va embrasser encore d'autres personnes, toujours très différentes, toujours très éloignées par rapport à la pensée juive, la communauté juive. Mais maintenant, parce que Christ a été exclu, rejeté, à notre place, nous pouvons être inclus. Et puis offrir à d'autres d'être inclus, de rejoindre la famille de Dieu. Pour ce que ça vaut, nous avons une petite trace dans la littérature de l'Église primitive, c'est Irénée de Lyon, qui parle de cet Éthiopien, ce qu'il est devenu. Selon lui, il serait devenu un missionnaire parmi son peuple, ce qui est assez fort, ministre de finances. Justement, quand on est ministre de finances, on ne va pas forcément aller côtoyer tout le monde et leur offrir des choses, justement. On dresse une barrière. Mais cet homme, ayant compris maintenant la bonne nouvelle, la nouveauté de l'Évangile, il peut aller auprès des siens, il peut aller envers les autres et leur partager librement, généreusement, le message de l'Évangile. Et nous aussi, ce qu'on peut faire, ça nous pousse à chercher d'autres, à ouvrir le cercle, ne pas s'enfermer, devenir des clubs, mais ouvrir le cercle pour que d'autres, des nouveaux, toujours accueillants, puissent intégrer la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons dans la prière.